Bonjour et bienvenue à tous dans la matinale
infernale.
Oh, je sens qu'on est en forme ce matin pour la reprise. Et oui, c'est la première émission de la saison. Et d'ailleurs, c'est notre 4e saison.
Déjà ?
Non, je crois même que c'est la 5e. C'était un piège.
Wow.
Personne n'est réveillé ici, dis donc. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, le principe de notre matinale infernale, c'est l'émission qui dynamite votre réveil. Eh bien oui, nous formons des amateurs de divers horizons à la création de chroniques pour la radio à travers une série d'ateliers qui ont lieu à la bibliothèque de Compiègne, parfois en classe aussi, quand je travaille avec des établissements scolaires. Et ensuite, nous enregistrons nos productions sous forme d'émissions, notre matinale infernale. Moi, c'est Aurore, j'anime ou participe déjà à d'autres émissions sur Graphite, donc peut-être que vous m'avez déjà entendu depuis ces 5 ans. En plus, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans cette nouvelle saison un nouveau membre. Je vous présente Antoine.
Bonjour.
Voilà, Antoine a 12 ans, je le dis parce que quand même, 12 ans, c'est pas beaucoup pour participer. Et nous avons aussi toujours Elsa.
Bonjour.
Qui elle aussi a 12 ans, mais c'est sa deuxième saison, Elsa. Nous avons la marin baladeuse.
12 ans également.
C'est cela, oui. Et Fatih la féministe.
Hello.
Parfait, nous sommes donc au complet pour cette nouvelle émission. Et nous allons commencer avec Antoine.
Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné.
Je vais vous présenter mon club TCAP 60 et...
C'est ton club d'athlétisme ?
C'est mon club d'athlétisme et... là-bas, c'est un loisir où on est, c'est convivial et compétitif. Ce club a été créé il y a 2 ans et se situe à Margny-les-Compiègne, au stade Robert-Dubois. Il y a environ 100 adhérents, dont plus de la moitié sont licenciés dans la section jeunes.
Ok, cool.
Les entraînements sont le jeudi soir au stade et le samedi matin en forêt pour les jeunes. Le jeudi soir, nous travaillons le saut, le lancer et le 1000 mètres pour les compétitions qui sont l'hiver en salle et l'été en extérieur. Attention au coup de soleil pour l'été.
Mais c'est bien de le dire parce que des fois, l'athlétisme, on a l'intention qu'on va faire que courir. Mais en fait, non, on fait plein d'autres trucs. En fait.
Parce qu'une fois, à une compète, j'ai les jambes remplies de coups de soleil. J'avais que des coups de...
Aïe.
Aïe, aïe, aïe. Aïe.
Pense à la crème.
Merci de nous prévenir.
Le club a aussi un objectif cross. C'est-à-dire qu'il aimerait que tous les adhérents y participent parce que c'est qu'une fois dans l'année pour avoir des équipes sur le podium.
Et c'est tous les âges ?
Oui.
Cool.
Mais il y a plus de jeunes sur le podium que de vieux.
Et voilà.
Bizarre, bizarre.
De personnes d'un certain âge, quoi.
Oui.
Des vieux, quoi.
Quand on a 12 ans, vieux, ça va, ça arrive vite. Hein.
Il y a beaucoup de jeunes et peu d'adultes qui participent au cross, car les entraîneurs veulent que tous les jeunes y participent. C'est un événement externe au club qui est organisé par la Fédération d'athlétisme de l'Oise.
D'accord, donc il y a plein de clubs qui participent.
Oui, enfin tous les clubs de l'Oise.
Ok.
Les entraînements sont très conviviaux et amusants parce que les entraîneurs sont drôles, donc ils rigolent beaucoup grâce à eux. C'est un loisir parce qu'on s'amuse et tout le monde est ami. Surtout le samedi, parce qu'on peut courir à sa vitesse et donc parler avec ses amis. Tous les ans...
Ça s'entraîne dur.
Enfin, le samedi, c'est...
C'est plus tranquille. Oui. Mais c'est en forêt, c'est ça. T'as dit que vous sortiez.
Et tous les ans, à la fin de saison, nous nous retrouvons pour célébrer nos performances. Nous faisons la fête et nous mangeons.
Quel
entraînement.
C'est souvent au mois de juin.
Bah oui, c'est la fin de l'année scolaire, d'une certaine manière.
Le club a tenu un stand au marché de Noël de Margny-les-Compiègne. Ils vendaient des crêpes, du vin chaud, du chocolat chaud, du thé et du café. Les crêpes étaient délicieuses.
Il faut le souligner.
Oui. Après, il faut les éliminer aussi.
Après, il faut aller courir en forêt.
Et les revenus du marché de Noël servent à financer le matériel et les activités du club. Le club fait beaucoup d'événements dans l'année, comme le marché de Noël et la fête de fin d'année. Il participe à de nombreuses compétitions de l'année dans la région. Je suis dans ce club et j'aime la convivialité. J'ai mal au genou en ce moment, donc je ne peux pas courir. Et je suis aussi juge arbitre pour les compétitions. J'ai hâte de vous en dire plus la prochaine fois.
Eh ben oui, nous aussi on a hâte d'en savoir plus. J'espère que ton genou, ça ira mieux d'ici la prochaine fois. Eh ben super, ça nous a mis en forme en tout cas, cette petite chronique du matin là, sur l'athlétisme. Eh ben on va passer maintenant à notre deuxième chroniqueuse.
Hello tout le monde, petite chronique de reprise et petit rappel de mes précédentes chroniques, histoire de nous retrouver. Nous avons navigué donc ensemble sur les deux premières vagues du féminisme. La première, celle de la conquête des droits civiques avec l'emblématique droit de vote, mais aussi l'accès à l'éducation et au marché de l'emploi. La deuxième, celle de la libération de la femme et de son droit à disposer de son corps avec l'emblématique droit à l'avortement. Surfons maintenant sur la troisième vague qui a pris son élan dans les années 90 aux États-Unis grâce à leurs médias et politiciens conservateurs, et oui, toujours eux, qui annoncent alors la fin du féminisme et le backlash, comme ils disent, c'est-à-dire le retour de bâton. D'ailleurs, je crois qu'il y a encore un backlash en ce moment. Quelle violence inouïe contenue dans ce terme, vous ne trouvez pas ? Suzanne Faludi, journaliste et féministe américaine, reprend justement ce terme dans son livre « Backlash, la guerre froide contre les femmes » paru en 1991. Et elle y décrit la réaction négative du système patriarcal envers la libération de la femme entamée 20 ans plus tôt. Alors, cette troisième vague du féminisme a porté et porte encore aujourd'hui plusieurs luttes. Lutte pour le droit à l'égalité salariale. Et oui, double peine pour les femmes. À travail égal, elles gagnent moins et se tapent en plus les tâches domestiques. Sauf celle de descendre la poubelle, peut-être. Bon, ok, il paraît quand même que la charge mentale commence à se répartir plus équitablement. Lutte pour la condamnation des violences perpétrées contre les femmes. Là, on parle d'harcèlement sexuel, de violences domestiques ou pas, de crimes d'honneur ou encore de mutilation génitale, l'horreur. Lutte aussi contre l'objectivation de la femme. Et oui, elle est une personne à part entière, mais reste souvent évaluée et traitée comme un simple corps par autrui. Un objet de plaisir, un instrument, quoi. Et la sempiternelle lutte pour le droit à disposer de leur corps. Et oui, encore, l'histoire est parfois comme la mode. Un éternel recommencement avec une remise en cause des droits acquis, tels que l'avortement. Émerge dans le même temps un nouveau courant féministe dit intersectionnel. Il ne s'agit donc désormais plus de défendre la femme avec un grand F, mais les femmes selon leurs origines, leur classe sociale, leur orientation sexuelle, leur religion, leur handicap, leur âge, etc. Par exemple, être née femme, en plus de couleur de peau noire, en plus dans un ghetto, ça n'aide pas, vous comprenez ? Cette femme aura plus de malchance d'être victime à la fois de sexisme et de racisme. En fait, jusqu'alors, le mouvement féministe avait un angle mort, puisqu'il ne portait que la parole de la femme blanche privilégiée, ne subissant pas les discriminations que d'autres femmes peuvent subir. Ainsi, désormais, le féminisme est une cause parmi d'autres de lutte pour les droits humains et contre l'oppression. Dès lors, de nombreuses organisations incluent le féminisme dans leur programme. Et en France, nous avons même une ministre chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations. Bon, avec un budget, j'espère. Sur ce, bonne descente de poubelle, mesdames, parce qu'il est temps que ça change, vous ne trouvez pas ?
Absolument. Bon, je ne sais pas si c'est déjà l'heure, parce qu'il est peut-être un peu tôt pour les descentes de poubelle. Je ne sais pas si ça passe le samedi, mais bon, écoute, on y pensera pour les jours à venir.
Oui, très bien. Il faut que ça rentre dans l'esprit. On change les mentalités.
Et pour ça, on a trouvé une bonne chanson à passer à nos auditeurs. Il s'agit de Grand Corps Malade et Suzanne pendant 24 heures. Et oui, que se passe-t-il si on échangeait nos places pendant 24 heures ?
D'intimes nuances vues de l'intérieur, vivre cette chance pendant 24 heures.
taf en faisant les courses à Carrefour. J'aiderai les enfants au devoir en sortant la quiche du four. Avec eux, je serai joyeuse avec mon mec femme fatale. 24 heures dans la peau d'une femme, je comprendrai la charge mentale. À 16h35 pile, j'arrêterai de travailler. Vu qu'après, quand t'es une femme, eh ben, t'es plus payé. Je sortirai en jupe quelques instants dans les transports pour comprendre l'essence même du hashtag balance ton corps.
J'boirai du whisky pour me mettre à l'aise. Sans coca, sans glaçons, comme les mecs balèzes. J'irai draguer une fille, mais y'aura pas de malaise. J'enverrai pas de texto qui dit c'est quand qu'on baise. Je serai romantique avec les meufs sur Tinder. Pas de dick pic, des cœurs de toutes les couleurs. J'irai marcher la nuit, je prendrai pas de Uber. Si je croise un autre mec, plus besoin d'avoir peur.
Mais je veux aussi kiffer, connaître enfin leur vrai pouvoir. Critiquer les gens avec mes copines du matin au soir. Et dès qu'elles sont parties, les critiquer elles aussi. Fanny est vraiment chiante, Solène elle a grossi. Je veux découvrir enfin le singulier bonheur de réussir à faire un créneau en une demi-heure. Comprendre enfin la passion sincère, sans censure, de regarder sur internet pendant des heures des chaussures. Tout de suite ces petites galères au féminin, l'épilation, le maquillage, perdre ses clés dans le sac à main, les talons hauts, le vernis à ongles, les rappels mensuels du corps. D'être une femme, je veux découvrir l'enfer du décor.
Je pourrais ne plus me raser, personne dira que c'est dégueu. J'aurais plus mal au ventre, à gna gna de mes deux. Je dirais bonjour patron sans qu'il me dévore des yeux. Dealer l'augmentation sans dîner amoureux. Devant ma PS4 pendant que ma meuf plie en quatre. Je mettrai pas la table, c'est pas la fin du match. Je pisserai sur le trottoir comme le petit chien de la voisine. C'est l'avantage de la physiologie masculine.
Vivre cette chance pendant 24 heures. Je ne sais pas si beaucoup d'hommes trouveraient que ce serait, que, bref, une chance.
Bah, chiche, allez, on propose à notre entourage.
Ah, merci. Antoine est volontaire, merci Antoine. On est toujours sur Graphite 94.9 dans la matinale infernale, votre émission qui passe les samedis matins d'avril à début juillet à 8h15. Une matinale infernale, explosive, dynamique. Et nous allons du coup enchaîner avec notre chroniqueuse, la marin baladeuse, qui nous emmène ailleurs que sur les bords de Normandie, contrairement à la saison dernière. Attention, un nouveau paysage s'offre à nous. Je vous donne un petit indice.
Il parmigiano, lo zafferano, la mozzarella e la cannella, la pasta al pesto, il pollo arrosto, il baccalà.
Si je vous dis il bel paese, vous le reconnaissez? La beauté naturelle et la richesse culturelle. Allez, enfourchez la Vespa, je vous y emmène. L'Italie, terre bénie par l'inspiration divine, l'art et l'élégance dans la divine comédie de Dante. Pétrarque la décrit également ainsi, une terre de beauté, expression ancrée dans l'identité nationale. La Toscana, che cosa c'è? Une des 20 régions d'Italie, située au centre-ouest, dont la capitale est Florence, Firenze. Le mot Toscana, du latin Tuscia, désigne l'ancienne Étrurie, pays des Étrusques, peuple originel de Toscane, dont la langue n'a jamais été déchiffrée. Alors, jeune Champollion, à vos pierres de rosette. La Toscane est traversée par l'Arno. Une liaison millénaire les unit. Ponte Vecchio est le premier pont de Florence de l'époque romaine. Fermez les yeux. Imaginez la Florence du passé. Grouillante de monde, les ouvriers occupés dans les moulins et les usines de textiles, les tanneurs et les teinturiers sur les rives du fleuve. Observez les navires marchands remonter le fleuve vers la ville. Voyez les bouchers, les poissonniers sur le Ponte Vecchio, remplacés par les célèbres orfèvres au XVIe siècle. L'histoire politique et culturelle exceptionnellement riche de cette région lui a permis de donner sa langue à l'Italie. Mais grâce à qui? Roulement de tambour.
Ah, c'était un tambour, ça?
Oui. Okay. Une tentative de tambour. Dante Alighieri, Francesco Petrarca, ou Petrarque, Giovanni Boccaccio, ou Boccas. Nous sommes à Florence, au XIIIe siècle. Dante Alighieri, père de la poésie et de la langue italienne, écrit la Divine Comédie, divisée en trois parties. Inferno, l'enfer, Purgatorio, le purgatoire, et Paradiso, le paradis. Pour sa description de l'enfer, Dante se serait inspiré de l'Orrido di Botri, une gorge calcaire spectaculaire située près de Lucques, à côté de Pise et sa tour penchée. Un peu plus au sud-est de Florence, arrêtons-nous au XIVe siècle, à Arezzo, où nous rencontrons Pétrarque, l'un des plus grands poètes de la Renaissance italienne, considéré comme le père de l'humanisme et de la langue italienne moderne. Sa grande œuvre, La Canzoniere, un recueil de chansons. Tournons-nous à présent vers le sud-ouest de Florence. Pétrarque devient ami de Boccace, père de la prose italienne. Vous connaissez peut-être le Décaméron.
Ou pas.
Il connut un succès retentissant pour son époque. Cet ouvrage relate l'histoire de 7 femmes et 3 hommes qui s'isolent pour échapper à l'épidémie de peste noire qui frappe la ville de Florence et qui décima 1/3 de la population européenne.
Donc c'est des faits réels.
Ah oui.
Ça, c'est une histoire inventée sur base de faits réels.
Ah non, la peste noire qui a frappé l'Europe, ça c'est une histoire bien réelle et qui a décidé...
Mais les 7 femmes et les 3 hommes qui s'isolent, c'est le roman.
Ces 10 jeunes gens narrent chacun et chacune une nouvelle pendant 10 jours, produisant au total 100 nouvelles. Alors un petit extrait du Décaméron de Boccace. Partout, déjà, le soleil avait par sa lumière apporté le jour nouveau. Et les oiseaux chanteurs, épars sur les vertes ramures, en rendaient, par leurs accents, aimables témoignages aux oreilles, quand toutes les dames et les 3 jeunes gens, après s'être levés pareillement, entrèrent dans les jardins. Et lentement, foulant les herbes mouillées de rosée, çà et là, longtemps, tout en tressant de jolies guirlandes, ils s'en allèrent musardant. Et ce que la veille ils avaient fait, ils le refirent ce jour-là. Là, car lorsqu'ils eurent dîné à la fraîche et ballé quelques danses, ils s'en allèrent reposer. Ces 3 auteurs furent les fondateurs de la tradition littéraire italienne et de la culture humaniste, qui inspira toute la Renaissance européenne. Shakespeare, entre autres. Alors, Toscana or not Toscana? À bientôt pour la prochaine chronique.
Arrivederci.
Arrivederci. Ciao.
Ciao, ciao, mais on s'envole pour un autre pays, un pays que nous connaissons un petit peu mieux grâce à Elsa. Je n'en dis pas plus.
Prêt pour un nouveau départ pour le Japon? Oui, mais direz-vous.
Oui.
Et vous avez raison de vouloir retrouver ce pays merveilleux. Aujourd'hui, on parle des divinités. Izanagi et Izanami sont les jumeaux créateurs des îles japonaises. Izanami, la fille, aurait créé les îles de Kyushu et Shikoku. Cette dernière est connue pour ses 88 temples, dont plus d'un quart sont dédiés à la déesse. Izanagi, le garçon, aurait créé les îles de Honshu et Hokkaido. Celle-ci est connue pour ses sublimes paysages, qui auraient été peints par le dieu en personne. Izanagi a eu 3 enfants. L'aînée, Amaterasu, est la plus importante déesse de la mythologie. C'est la déesse du soleil qui aurait donné naissance à toute une lignée d'empereurs japonais. Elle est connue pour avoir, selon le shintoïsme, introduit la culture du blé et du riz, ainsi que l'élevage des vers à soie. Son nom signifie « illuminer le ciel ». Elle est représentée sous la forme d'un disque solaire rouge sur le drapeau du pays. Le cadet, Tsukuyomi, est le dieu de la lune. Il est associé à la nuit et à l'obscurité, et son nom signifie littéralement « regarder le clair de lune ». Les nuits de pleine lune, les Japonais suspendent des lanternes devant leurs portes afin de guider Tsukuyomi jusqu'à la terre. Il est souvent décrit comme le reflet de sa sœur. Le benjamin de la fratrie est Sunsano, le dieu des mers et des tempêtes. Il est très craint au Japon. Lorsqu'un tsunami ravage une ville, en a l'habitude de dire que ses habitants ont subi la colère du dieu. Les Japonais lui envoient des lanternes pendant les festivités afin qu'il ne les gâche pas en créant des tempêtes. Les dieux ne sont pas toujours des êtres humanoïdes. Certains sont des démons si terrifiants que les Japonais n'osent pas prononcer leur nom. Raiden, par exemple, est le dieu du tonnerre et des éclairs. Il est généralement représenté comme un démon frappant des tambours pour créer du tonnerre. Il est connu pour avoir créé Kamikaze, un esprit qui arrêta la tentative d'invasion par les Mongols. Il est souvent représenté en compagnie de Raiju, l'animal tonnerre. Fujin, son frère jumeau, est la déité du vent. Il est souvent décrit comme un démon à forme humaine, aux cheveux rouges, avec une peau de léopard et portant sur ses épaules un sac rempli de vent. Il prend plaisir à créer des orages terribles avec son frère. Il existe pour contrer les démons une assemblée de dieux et de déesses puissants et ayant une connotation positive. Ils sont les sept divinités de l'Assemblée du Bonheur. Benzaiten, la porte-parole de l'Assemblée, est la déesse du savoir et de la beauté. Déesse aux multiples qualités, elle est souvent mise en concurrence avec Amaterasu, la déesse du soleil. Elle est connue pour guider les marins en chantant, pour les empêcher de s'échouer sur les falaises. Fukurokuyu, le directeur de l'Assemblée, est le dieu de la richesse et de la virilité. Il est souvent décrit comme le némésis masculin de Benzaiten. Et voilà, c'est tout pour cette fois. Mais j'ai hâte de vous retrouver pour vous en apprendre toujours plus sur le pays du soleil levant.
Quel joli nom, l'Assemblée du Bonheur.
C'est vrai. Les Japonais ont l'art quand même pour trouver des choses poétiques. Merci beaucoup Elsa, parce que moi je connaissais pas, je connaissais pas la moitié de ce que tu m'as dit. Je pense que je connaissais rien du tout en fait sur ce que tu m'as dit, tout simplement. Donc merci. Mais c'est vrai qu'en fait on se demande parfois d'où viennent les symboles. Et là quand tu dis la déesse du soleil, elle est représentée par un disque rouge sur le drapeau, c'est quand même assez probant comme preuve de son importance pour le pays. Donc super. On va terminer cette émission avec un petit clin d'œil à notre ami Batcave, qui n'a pas rempilé pour les chroniques cette année avec ses chroniques post-punk, mais qui travaille dessus, je sais, d'arrache-pied, pour vous offrir sur Graphite des versions encore plus longues, encore plus documentées que ce qu'il nous a fait l'année dernière. Donc n'ayez pas peur, Batcave va revenir. En attendant, on a pensé à lui avec ce titre de Sam Sauvage, La fin du monde. Merci à mes chroniques et mon chroniqueur de ce matin.
Merci à toi.
C'est une belle première reprise, je trouve. On a assuré, les gars.
Ouais. Et les meufs.
Et les meufs, mais oui. Pour une fois, c'est pas Fatih qui l'a dit, tiens. Ça commence à s'imprégner, hein, t'as vu. Et merci à Graphite qui soutient nos ateliers, hein, quand même, il faut le dire, depuis 5 ans et qui nous offre la possibilité d'aller au studio, de faire ses émissions. Et puis merci aux bibliothèques de Compiègne, bien sûr, puisqu'ils nous accueillent quand on fait nos ateliers également. Eh bien, je dis à mes chers auditeurs à bientôt pour une prochaine matinale.
Infernale !
Jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde. c'est pas moi qui le dis. À nous les tragédies, t'entends cette mélodie. Regarde devant, au-dessus des incendies, le ciel qui nous sourit. Et tous ensemble on crie, et là dans le club, on rêve d'un monde nouveau. Saoulés dans le pain, on sera des héros. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas de danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et bien que ce soit la fin du monde, j'entends le vent du nouveau monde souffler avec moi pour la fin du monde. La fin du monde.